Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait, selon moi, que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant van-nutritionniste. Salut! Donc, avant de vous laisser à l'épisode de la semaine, je prends quelques minutes pour vous dire que les inscriptions de la session d'hiver sont maintenant lancées pour le programme « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? » Donc, je vous en ai parlé à quelques reprises là, au cours des épisodes précédents. C'est actuellement la session d'automne qui est en cours et on a full des bons commentaires. Donc, je pense qu'on a fait du beau boulot et que le contenu est intéressant. Alors, si tu découvres le programme, je t'explique rapidement ce que c'est. En fait, c'est un programme que j'ai créé avec ma collègue et amie Geneviève Plante, qui est créatrice de contenu, créatrice culinaire en fait, et qui a rédigé plusieurs livres de recettes. Elle a également écrit là, des recettes pour Cas pour Catherine et pour Mitsu, le magazine Mitsu, par le passé. Donc, c'est une pro de la cuisine, ce qui fait qu'on se complète à merveille. Alors, le programme, c'est en fait un programme de 12 semaines pendant lequel il y a chaque semaine, en fait, des ateliers culinaires en ligne, en direct, les mardis soirs. Donc là, je t'entends déjà, si t'es pas disponible les mardis soirs, il n'y a vraiment pas de souci. Dans le fond, tout le contenu est enregistré et vous avez accès pour plusieurs mois là, suivant la diffusion. Donc, on fait quoi pendant ces fameux ateliers? Eh bien, chaque semaine, on apporte une thématique différente. Notamment, là, cet hiver, je vous partage quelques thématiques là, qu'on va aborder. Donc, on a une semaine sur les salades repas, une semaine sur les légumineuses. On va également parler des dérivés du soya, donc PVT, fave edamame, tofu, tempeh, etc. Une semaine, on va parler du sodium, donc des alternatives pour diminuer le sodium en cuisine. On va parler également des petites graines, donc chia, chanvre, citrouille, lin, etc. Des épices et fines herbes. Bref, on a vraiment une belle planification, une belle programmation que vous pouvez découvrir plus en détail au www.qu'est-ce-qu'on-mange-cette-semaine.com. Donc, chaque atelier, en fait, il y a une portion théorique pendant laquelle je partage vraiment des astuces, là. Pas des astuces, en fait, c'est vraiment des infos pour démystifier là, tout ce qu'on peut lire sur le web, puis avoir la juste information par rapport à l'aspect nutritionnel des aliments qu'on vous propose. Puis, il y a vraiment des infos plus pratico-pratiques et des démos culinaires. Fait qu'on est vraiment en cuisine, Geneviève et moi, on vous montre comment les intégrer en cuisine, on vous partage des infos sur comment les choisir, comment faire des bons choix, comment les cuisiner. En fait, là, on veut vous donner envie de cuisiner, vous inspirer et faciliter votre quotidien. Et pour supporter le tout, et on vous envoie un menu hebdomadaire qui a été créé par Geneviève et moi. Donc, c'est des recettes de nos recettes qu'on a créées et testées à multiples reprises et on s'assure que le menu est équilibré aussi. C'est un menu qui est flexitarien, disons ça comme ça, donc qui s'inspire un peu de la diète méditerranéenne, donc beaucoup plus de végétaux que de produits carnés, mais il y a quand même de la viande chaque semaine. Et on essaie de mettre également les poissons en valeur, poissons et fruits de mer. Puis, si vous êtes végétarien, bien, il va toujours y avoir des alternatives qui sont suggérées aux produits carnés. Tout ça, là, fait que tout ce beau stock-là, l'atelier culinaire et le menu et le groupe Facebook, bien, c'est juste 12,50 par semaine. Fait qu'au total, pour les 12 semaines, ça revient à 150 $. Puis ça, c'est le prix d'une seule consultation en nutrition. Fait que c'est un big deal. Tu peux aller t'inscrire dès maintenant au www.qu'est-ce-qu'on-mange-cette-semaine ou tout simplement, si tu vas aller chercher plus d'infos là, avant de prendre ta décision, eh bien, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin au même endroit. Tu peux également m'écrire à moi-même ou à Geneviève là, si tu veux discuter pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Salut tout le monde! Alors, me revoici seule au micro aujourd'hui pour vous faire un épisode un petit peu différent de l'habitude, dans lequel je vais vous faire un petit peu un résumé de lecture. Donc, il y a quelques mois, en fait, peut-être à la fin du printemps dernier, j'ai eu une consultation avec une cliente qui m'a fait part d'une lecture là, qu'elle avait eue, qui avait un petit peu bouleversé là, sa manière de voir l'alimentation. Après notre consultation, je suis allée me commander le livre. Évidemment, je suis une grande curieuse, donc je n'avais pas d'autre choix que de me lancer dans cette lecture. Je parle ici du livre « Glucose Révolution ». Et là, vous m'excuserez, j'ai vraiment l'impression que je massacrais un petit peu le nom de famille de l'auteur. Je ne sais pas du tout comment le prononcer, mais c'est Jessie Inchospé, aka de Glucose Goddess, sur les médias sociaux. C'est vraiment un best-seller, en fait. Le livre a été vendu en milliers d'exemplaires. Et d'ailleurs, cette dame a une énorme communauté de médias sociaux sur laquelle elle partage des astuces, là, finalement, pour lisser, comme elle appelle, la courbe de glycémie. Donc, je vous explique un peu son histoire, puis qu'est-ce qui l'a amené à vouloir rédiger ce livre et s'intéresser au sujet. En fait, Jessie, il y a quelques années, elle a eu un accident là, en sautant du bord d'une falaise là, pour sauter dans l'eau, dans le fond. Puis, après l'accident, elle a eu des séquelles qui sont comme jamais revenues. Elle avait toujours un genre de brouillard mental, puis il n'y a rien au niveau de la médecine traditionnelle là, qui l'aidait à se sentir mieux. Au fil du temps, puis de son parcours académique et professionnel, elle a évolué, en fait, elle s'est beaucoup intéressée à la science parce qu'elle, comme plusieurs personnes, en fait, c'est vraiment le cas de plusieurs personnes, si vous intéressez aux professionnels de la santé, là, des fois, comme, ils se sentent pas bien, sont malades, ils se font dire que tout est correct, qu'il n'y a rien à faire, puis là, ils se mettent vraiment à s'intéresser au monde de la santé et un peu à la recherche, finalement, de solutions. C'est ce qu'elle a fait. Puis, elle est devenue biochimiste. Et par son parcours en biochimie, elle s'est ramassée à travailler dans une grande firme là, qui faisait différentes études. Notamment, un jour, cette fameuse firme s'est mise à s'intéresser là, aux fluctuations de glycémie chez les non-diabétiques. Elle a elle-même participé à l'étude en question et pour ce faire, elle a eu un lecteur de glucose en glycémie en continu, là, en fait, qu'elle portait sur elle tout le temps. Fait que dans le fond, c'est comme un petit lecteur qui, en temps réel, à n'importe quel moment de la journée, peut te dire à combien est ta glycémie. Donc, elle voyait ça fluctuer là, au courant de la journée, puis ça l'a vraiment attiré son attention et son intérêt, ces fluctuations-là. Donc, elle a fait plusieurs tests sur elle-même, elle a fouillé la littérature sur le sujet pour finalement se rendre compte qu'elle se sentait beaucoup mieux quand sa courbe de glycémie était plus lisse, c'est-à-dire quand il y avait moins de fluctuations glycémiques, donc moins de pics, donc de, mettons, la glycémie monte en flèche, elle redescend, elle monte, elle flèche, elle descend. Puis c'est ce qui a finalement, c'est ce qui fait le cœur là, de son livre « Glucose Révolution ». Donc, d'entrée de jeu, je vais vous expliquer un petit peu, on va revenir sur des notions de base pour bien définir là, qu'est-ce que la glycémie. Donc, la glycémie, c'est tout simplement la concentration de sucre dans le sang. Cette dernière-là, elle varie constamment dans le temps, puis une glycémie qu'on dit normale serait entre 4 et 8 chez une personne non diabétique. Évidemment, ça va dépendre, là, je vais vous donner avec un petit peu plus de précision. Pour s'assurer de débuter avec des bonnes bases, on va partir avec des petites notions de base, justement, pour bien comprendre la glycémie. La glycémie, c'est quoi, en fait? C'est la concentration de sucre qu'on a dans le sang. Celle-là va varier tout au long de la journée, en fait, dépendamment de ce qu'on va manger, de quand on a mangé, puis ça, c'est tout à fait normal. On dit qu'une glycémie à jeun normal serait entre 4 et 7 et entre 5 et 10, 2 heures après le début de la prise alimentaire. Donc, comme vous voyez, ça va fluctuer. En fait, quand on mange, il y a du sucre qui va se diriger dans le sang, donc il va augmenter. Puis au fil du temps, ben ça va s'atténuer. On va utiliser en fait le glucose qui va être en circulation dans notre sang, donc il va tendre à diminuer. Puis à ce moment-là, ben on va avoir faim et on va manger à nouveau, puis le processus va recommencer. Il y a plusieurs mécanismes là, qui fonctionnent naturellement pour réguler le taux de sucre dans le sang, car évidemment, on ne veut pas avoir trop de sucre dans le sang. Si on a une concentration trop grande en sucre dans le sang, ben, c'est là qu'on peut en avoir des effets délétères, donc tous les symptômes ou effets pervers là, du fameux diabète de type 2 qu'on connaît. D'ailleurs, justement, si nos cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline, c'est là qu'on peut avoir une glycémie qui va être trop élevée dans le sang et c'est là qu'on peut avoir un diagnostic de prédiabète, de diabète de type 2 notamment. Donc, pourquoi je vous parle d'insuline? Encore une fois, pour établir les bonnes bases, en parlant d'insuline et de glucagon. Donc, lorsque le sucre va s'élever, la concentration de sucre va s'élever dans le sang, notre pancréas va sécréter l'insuline, qui est l'hormone responsable de l'absorption du sucre dans les cellules et le foie. Donc, ensuite, ça fait redescendre la glycémie parce que le sucre va être mis en stock au niveau du foie sous forme de glycogène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Donc à ce moment-là, le taux de sucre dans le sang va être redevenu normal et ça prend environ 2-3 heures là, après la prise alimentaire finalement. Donc à ce moment-là, 2-3 heures justement après la prise alimentaire, notre glycémie va avoir redescendu. Lorsque la glycémie devient basse, à ce moment-là, c'est le glucagon qui va être sécrété toujours par le pancréas. Le glucagon, en fait, c'est l'hormone qui va avoir l'effet inverse, donc qui va indiquer au foie qu'il est temps de sécréter du glucose, donc de prendre le glucose qui a été stocké sous forme de glycogène et de le libérer finalement pour envoyer du sucre dans le sang. Il n'y a pas juste le glucagon là, qui va avoir une action hyperglycémiante comme ça. Il y a également les catécholamines qu'on appelle donc l'adrénaline et le cortisol qui peuvent également agir pour envoyer des signaux, là, principalement au niveau des muscles, qui étant de libérer du sucre pour qu'on ait du sucre pour produire de l'énergie, en fait du glucose pour produire de l'énergie dans notre sang. Donc déjà ici, en comprenant ça, on peut croire quand même avec une certaine logique que plus il y a de variations, plus on accentue un peu le travail des organes, en plus de surstimuler la production hormonale. Et c'est d'ailleurs des fois ce qu'on attribue au prédiabète en fait, c'est que quand je disais tantôt qu'il peut y avoir une certaine résistance à l'insuline, c'est que plus notre corps va sécréter de l'insuline, moins nos cellules vont être sensibles à cette action-là. Donc à un moment donné, on sécrète la même insuline, mais ça devient difficile pour le corps d'entreposer le sucre dans le fond dans nos cellules et dans notre foie avec cette quantité d'insuline-là. Donc, ça prend de plus en plus d'insuline pour faire un travail qui est de moins en moins efficace. Puis finalement, ça commence à avoir une concentration dans le sang qui est supérieure aux valeurs normales. Donc justement, tantôt je disais, tu sais, on dit que la glycémie à jeun serait normale entre 4 et 7, puis la glycémie après la prise alimentaire serait normale entre 5 et 10, 2 heures après la prise alimentaire. Mais il y a certaines études qui tendent à démontrer que, OK, ça c'est les valeurs normales, mais ça c'est les valeurs optimales. C'est un peu ce qui peut être mis en question. Il y a des études qui démontrent notamment là, qu'une glycémie à jeun entre 4 et 4,7 serait vraiment optimal. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée sur près de 2000 hommes non diabétiques qui ont été suivis pendant 22 ans, qui a permis de déterminer que les hommes qui se situaient dans les valeurs glycémiques les plus faibles, il y avait un risque cardiovasculaire qui était diminué par rapport à ceux qui se situaient dans les valeurs plus élevées, et ce, en absence de maladie, donc en absence de diabète. Maintenant, donc on peut s'intéresser à comment le sucre est absorbé. Dans le fond, ce qui est important de comprendre ici, c'est que plus les molécules de glucides vont être simples, plus elles seront absorbées rapidement parce qu'elles vont être rapidement dégradées. Puis cette vitesse-là d'absorption, c'est vraiment un concept qui est important dans le contexte, car plus les sucres sont absorbés rapidement, plus la glycémie aura tendance à monter en flèche et lorsqu'elle monte en flèche, on remarque qu'elle a aussi tendance à redescendre de manière tout aussi agressive. Puis c'est les fameux pics, en fait, qui agissent de manière contradictoire à la fameuse théorie de Jesse, que j'appellerai Jesse parce que c'est beaucoup plus facile à dire que son nom de famille, qui dit qu'on devrait lisser nos courbes de glycémie. Donc, en fait, il y a dans l'alimentation, des fois les gens confondent un petit peu là, glucides, sucre, tu sais, on pense un peu que c'est la même chose. J'ai fait un épisode d'ailleurs là, sur le sucre dans lequel j'en parle un petit peu, mais rapidement, juste pour revenir sur le concept, en fait, il y a ce qu'on appelle des sucres simples, puis il y a des sucres complexes. Les sucres simples, c'est vraiment plus comme, ben, il y a le sucre là, qui goûte sucré, donc on appelle le saccharose, qui lui est composé de glucose et de fructose. Il y a le lactose aussi, qui est un sucre simple, donc qui est un disaccharide qu'on appelle donc deux molécules qui sont combinées, qui est le glucose et le galactose. Puis, il y a le glucose seul et le fructose seul aussi, qui est considéré comme sucre simple. Ensuite, nos sucres complexes, finalement, ben, c'est un enchaînement de grandes molécules de glucose, donc c'est l'amidon et les fibres. Donc, vous aurez compris que dans le contexte, les sucres simples sont les plus faciles à dégrader, donc sont ceux qui vont faire monter la glycémie le plus rapidement possible. Une fois que ça s'est digéré, on obtient ce qu'on appelle les monosaccharides. Donc, il y a trois monosaccharides, le glucose, le fructose et le galactose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a exclusivement le glucose qui va avoir un impact sur la glycémie. Cela dit, le fructose, on pourrait en reparler dans un autre épisode, mais le fructose, on y connaît quand même des effets néfaste, disons ça comme ça, au niveau de la santé quand il est consommé en trop grande quantité. Puis là, j'insiste ici sur le trop grande quantité, là, parce que vous le savez, je prends l'équilibre, puis il n'y a rien qui est à diaboliser. D'ailleurs, là, pour le moment, je vous relate des faits, puis j'ai pas encore partagé mon opinion sur ce fameux lissage de glycémie. On y viendra un petit peu plus tard. Les fibres sont, pour leur part, non digestes et permettent de ralentir l'absorption de la glycémie. Est-ce que c'est pertinent de vouloir, justement, venons-en aux faits. Donc, est-ce que c'est pertinent de vouloir limiter les fluctuations glycémiques si on est non diabétique? Est-ce que c'est vraiment intéressant, justement, de vouloir lisser la glycémie? Je vais d'abord vous présenter ce qui est rapporté par l'auteur, puis ensuite, je vais vous partager un peu mon opinion, ma manière dont moi j'analyse les faits. Donc, ce que l'auteur présente, en fait, c'est qu'elle présente ça sous forme d'effets à court terme et d'effets à long terme. Les effets à long terme, en fait, de trop de fluctuations de sucre dans le sang, c'est une sensation de faim constante, des fringales, une fatigue chronique, un sommeil agité, un rhume ou une prédisposition, dans le fond, un système immunitaire affaibli, des bouffées de chaleur et des soirs nocturnes, des troubles de mémoire et une diminution des fonctions cognitives. Les effets à long terme rapportés par l'auteur seraient de l'acné et des problèmes de peau, le vieillissement et l'arthrite, la maladie d'Alzheimer et la démence, le risque de cancer, des épisodes dépressifs, l'infertilité ou une prédisposition à développer le SOPK, une résistance à l'insuline et un diabète de type 2, une stéatose hépatique non alcoolique, j'ai un petit bug, des rides et des cataractes. Bon, ça fait beaucoup de problèmes, ça, pour le sucre. Ce qu'il faut comprendre, là, puis ça, là, je vais le dire pour comme tous les livres pas possibles qu'il y a sur le marché qui s'intéressent à la santé, à l'alimentation. Genre, quand que je regarde le livre puis que je vais voir à la fin, là, il y a, pour vrai, je sais pas combien je l'ai sous les yeux, là, mais de la littérature, là, il y en a à pelleter, là. Il y a comme au moins 150 études qui ont été citées pour aller supporter les faits de l'auteur. Même, on approche le 200, là. Ouais, on approche 200. 200, même plus, hein, ça dépasse. En tout cas, bref. plusieurs études ont été citées pour aller supporter ces faits-là. Par contre, moi, j'ai fait la job que personne ne fait. C'est-à-dire, quand il y a une étude qui était citée, dans le fond, pour aller supporter une affirmation qu'elle émettait, bien, évidemment, je n'ai pas fait le tour des 200 études, là, mais sinon, j'allais voir, dans le fond, c'est quoi l'étude qui va supporter ce fait-là. Puis, tu sais, oui, il y a des choses au niveau de la science qui sont intéressantes puis qui mènent à réflexion, mais il y a des choses qui sont un peu poussées. Notamment, je vous en donne un au hasard, tu sais, il était vraiment marqué comme, puis c'était comme un gros sous-titre, là, comme acné et problèmes de peau, comme elle identifie clairement ça comme étant l'un des problèmes liés aux fluctuations de sucre dans le sang. Puis finalement, quand je vais voir l'étude qui est citée, tu sais, c'est une étude qui a été réalisée sur 32 Coréens pendant 10 semaines, puis là, il y a eu une différence significative, tu sais. Une étude ne permet pas d'établir des faits avec certitude. Ce qu'on a besoin pour tirer des conclusions en santé, en science, puis c'est pour ça que des fois, les conclusions vont dans n'importe quel sens. Ce qu'on a de besoin, c'est de méta-analyse, de revue de littérature. Dans le fond, c'est si on prend la somme de toutes les études qui ont été faites, bien, la direction, elle s'en va où? Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on parle d'une étude sur 32 Coréens. C'est des Coréens, donc c'est une population spécifique. 32, c'est vraiment un petit nombre de personnes. Puis là, tu sais, différence significative. Là, vous voyez, tu sais, je suis pas poussée, mais... mes observations en détail sur chaque étude, mais tu sais, significative, c'est quoi aussi, là? C'est ça, c'est que des fois, c'est comme une amélioration de tel paramètre inflammatoire de, tu sais, tant de pourcents. Puis au final, tu sais, dans le day-to-day, chez nous, est-ce que ça a une réelle influence? Peut-être pas. Tu sais, c'est comme des pistes d'observation qui nous amènent à se questionner, à remettre des doubles, des concepts en question, finalement, mais on peut pas, tu sais, on ne peut pas élaborer une recommandation ou un fait à partir d'une seule étude comme ça. Fait qu'évidemment, il y a des choses qui étaient plus solides, il y a des choses qui l'étaient moins, mais tout ça pour dire que des fois, on est dans le sensationnalisme, puis après avoir lu un livre comme ça, tu sais, c'est facile de dire « Oh my God, le sucre, c'est la mort, comme je dois absolument lisser ma glycémie, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille me chercher un lecteur de glycémie, non, non, non. » OK, moi, ce que j'en ai conclu de tout ça, après avoir lu ce livre-là, je me suis dit, c'est vraiment intéressant comme concept et je ne peux que croire avec tout ce que j'ai comme information, avec mon parcours auprès de mes clients, avec mon expérience, mes connaissances, que effectivement, ça semble logique de croire qu'une glycémie plus lisse, donc avec moins de fluctuations, ne serait que favorable. Et effectivement, pas juste mes connaissances, mon expérience, il y a certains faits, là. Tu sais, on le dit souvent, là, mettons, comme au niveau de l'énergie, tu sais, si tu manges un repas qui est très riche en glucides sur l'heure du dîner, par exemple, ça se peut que tu aies un petit crash d'énergie en PM. Donc, maintenant, je vais vous partager qu'est-ce qui semble le plus certain au niveau des fluctuations de glycémie, puis qu'est-ce qui, effectivement, peut nous permettre de croire qu'il serait favorable de poser des actions nous permettant de lisser nos courbes de glycémie. Et là, je tiens à dire aussi que quand je dis de lisser nos courbes de glycémie, l'idée, c'est pas de tout partir à la pharmacie, aller se chercher des lecteurs de glycémie ou prendre nos glycémies si on n'est pas diabétique, mais tout simplement de poser des actions, puis je vais y venir tout à l'heure là, dans le podcast, de poser des actions sur notre alimentation qui peut nous permettre finalement de moins faire fluctuer nos glycémies. Et d'ailleurs, fun fact, moi, j'ai fait l'exercice d'aller me chercher un lecteur de glycémie pour... faire un peu des tests, ça moi-même, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, ce qui est plus certain, en fait, qu'il y a vraiment un impact là, des fluctuations glycémiques, que la littérature le supporte beaucoup plus, c'est au niveau de l'énergie et de l'humeur. Puis ça, en fait, c'est très corrélé aussi avec la sensation de faim. C'est-à-dire que, tu sais, les personnes qui vont dire « Ah, moi, je suis de mauvaise humeur, là, quand que j'ai très faim », mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la glycémie est un petit peu plus basse, donc on peut commencer à perdre patience un petit peu. Donc, l'énergie, effectivement, si on a des glycémies qui fluctuent au bas toute la journée, ça se peut que quand la glycémie tend vers le bas, on ait un genre d'état de fatigue, puis qu'effectivement, on se demande pourquoi notre énergie est si instable au courant de la journée. Peut-être que ça peut être à surveiller. Ça peut effectivement amener des rages de sucre, parce que si on mange sucré, notre glycémie monte en flèche, après ça, notre glycémie redescend un peu plus en flèche, puis là, notre corps, il nous envoie des signaux en nous disant « Hey, ma glycémie est basse, là, j'ai besoin d'énergie tout de suite », puis naturellement, en fait, on va comme avoir envie de manger des aliments qui sont plus sucrés. Pourquoi? Parce que le sucre est l'énergie qui va être absorbée le plus rapidement possible, puis notre corps, il a besoin d'énergie maintenant. Ça peut justement accentuer la faim puis l'impression qu'on a envie de manger plus souvent parce que ça va plus vite dans le fond, le retour finalement de la glycémie vers le bas. Ça peut être associé à des sensibilités digestives. Le risque de maladies cardiovasculaires peut être augmenté aussi si on a des glycémies qui sont plus variables. Il y a un plus grand risque aussi de développer une résistance à l'insuline à un diabète de type 2, évidemment. La stéatose hépatique non alcoolique, donc ça, je vous en ai parlé dans un podcast précédent, mais à ce moment-là, souvent le glucose est lié aussi au fructose. Puis, c'est surtout ça, en fait, qui est à surveiller pour la stéatose hépatique non alcoolique. Donc ça, on ne le voit pas dans les glycémies, mais comme le fructose est associé, c'est comme insidieux un peu. Mais si notre glucose est toujours en train de monter, il y a de bonnes chances aussi que le fructose soit en train de monter et que là, on puisse amener des dommages là, au niveau du foie. Il y a aussi un effet hormonal qui est associé à ça, notamment si vous êtes une femme en préménopause. Il faut savoir que souvent, à ce moment-là de l'année, à cette période de vos vies, en fait, les hormones féminines, donc l'estrogène et la progestérone, vont avoir un effet direct sur la glycémie. Donc, c'est comme si la glycémie devenait un peu hyper réactive finalement, puis notre système nerveux peut nous amener à avoir des fluctuations qui seraient plus intenses. Et c'est ça, ça peut entraîner en fait des symptômes qui sont plus intenses, dont des bouffées de chaleur, de l'anxiété, des crises de panique, des palpitations. Donc, l'une des choses notamment à prendre en charge en préménopause, c'est ça, genre la consommation de sucre et les fameuses fluctuations de glycémie. Alors voilà, maintenant, on passe à que faire. Donc, parce que, tu sais, comme je dis, il ne faut pas partir en peur, mais je pense quand même que c'est un sujet qui est intéressant, puis qu'on a tous peut-être avantage à se questionner sur est-ce que je pense, moi, que ma glycémie fluctue beaucoup dans une journée? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour éviter ces fluctuations-là? Je pense qu'avant ça, je vais vous parler de mon expérience avec le lecteur de glycémie. D'abord, je dois vous dire que mon expérience est un peu décevante, puis ben c'est un peu de ma faute dans le sens que moi, j'avais toute la motivation du monde là, d'aller me chercher un lecteur de glycémie puis de faire plein de tests puis tout, mais dans le fond, là, je suis vraiment momoune pour faire des tests sur moi-même, puis j'étais comme, tu sais, genre, j'ai comme mes habitudes alimentaires, puis j'avais pas envie de, mettons, manger un déjeuner full sucré juste pour voir l'impact sur ma glycémie puis comment j'allais me sentir dans la journée. T'sais, j'avais comme envie de me sentir bien dans la journée puis je voulais pas prendre le risque que j'allais pas me sentir bien. Fait que je suis pas vraiment sortie de mes habitudes alimentaires, mais j'ai quand même essayé d'observer comme sur mes habitudes à moi, qu'est-ce qui faisait des différences. Donc, je vous le partage. Première chose, dans le fond, vous allez voir dans « Que faire pour limiter les fluctuations de glycémie », l'auteur, en fait, Jessie, une des choses qu'elle suggère, c'est de prendre un déjeuner qui est davantage salé que sucré. Moi, je suis très sucrée le matin. Puis quand je dis je suis très sucrée, tu sais, je vais pas manger une chocolatine avec un bol de céréales, là, mais comme j'adore les œufs, mais j'ai jamais envie de manger des œufs au déjeuner. Moi, le matin, je vais manger comme... je mange toujours la même chose, je dois vous l'avoir dit 50 fois, là, mais mon fameux yogourt grec avec des fruits, puis du granola sur le dessus, je mets de la PVT au travers, etc., puis des petites crêpes. Fait que là, je me suis dit comme, OK, est-ce que mon déjeuner sucré est trop sucré, puis il y a un impact sur ma fluctuation de glycémie? La réponse est non. Ma glycémie était très stable après mon déjeuner. Faut savoir aussi que, bon, dans mon yogourt, je prends des petits fruits qui sont les moins sucrés et les plus riches en fibres. Je mets du yogourt grec nature. Je mets toujours sur le dessus de la PVT des whole bran et des graines de citrouille, de chanvre ou de chia. Fait que, tu sais, au fait, c'est un déjeuner à tendance sucrée, mais qui n'est pas si sucré que ça. Il y a du gras et des protéines pour aller ralentir l'absorption. On s'en reparlera tantôt. Mais bref, dans le contexte, c'était concluant. Non, ma glycémie était très stable avec un déjeuner comme celui-là. Autre chose que j'ai testé, en fait, j'ai testé les collations. Les collations, un après-midi, j'avais pris une collation, tu sais, les fameux gâteaux, galettes, maison, ce genre de trucs-là. Donc, j'avais un pain aux bananes fait maison que j'ai pris en collation d'après-midi et c'est notamment l'une des choses qui a le plus fait monter ma glycémie. Donc, ça a beau être une collation maison qui contient des fibres, c'est quand même majoritairement riche en glucides et ça, ça l'avait fait monter ma glycémie. Quand je dis monter ma glycémie, là, ça l'a pas fait spiker à des valeurs pas possibles. Mais tu sais, c'est ce qui a fait le plus sortir des valeurs que je pouvais avoir l'habitude d'obtenir là, dans le quotidien. À part ça, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé, ouais. Mes pires glycémies, à part l'histoire du pain aux bananes, ont été un samedi où j'avais pris quand même un petit peu de vin le vendredi. Tu sais, genre de journée où t'as pas trop bien dormi, t'es quand même un peu fatigué, t'as envie justement de manger un peu n'importe quoi. Mes glycémies, vraiment, là, ça a été les pires cette journée-là. Fait que définitivement, le sommeil, l'alcool vont avoir un impact. Puis là, je dis définitivement, en fait. Je vous rapporte mon effet. Je pense que c'est connu aussi, mais encore là, ce que je suis en train de vous présenter, là, c'est mon histoire, pas des faits scientifiques. J'ai aussi testé un souper sushi. Donc, souper sushi avec des amis. J'étais curieuse de voir l'effet des sushis sur les glycémies. Puis finalement, tu sais, c'était, on a été plusieurs à prendre notre glycémie après le repas parce qu'évidemment, quand tu arrives avec un lecteur de glycémie dans un souper entre amis, tout le monde est un peu curieux de voir qu'est-ce que tu fais avec ça. Puis tout le monde veut savoir comme qu'est-ce que ça fait sur son corps. Puis finalement, justement, vu que le sushi, c'est quand même un aliment qui est complexe dans le sens que oui, il y a des glucides, mais souvent, il y a quand même beaucoup de gras hein, dans les poissons. Il y a des poissons gras, le saumon est toujours là, il y a quand même les petites sauces puis tout. Fait que les glycémies étaient quand même très stables là, par rapport à tout ça. Fait que bref, j'aurais aimé pouvoir vous dire, j'ai testé plein d'affaires, j'ai mangé comme des bonbons toute la journée pour checker mes glycémies, j'ai évité les protéines pour voir l'effet, mais comme je suis pas cette personne-là, malheureusement, si ça vous tente de le faire, puis d'être mon cobaye, all-in, j'ai essayé de faire des tests sur mon chum, mais il était pas super impliqué, là. Ça a pas été trop winner non plus. Donc voilà, maintenant je vous partage la fameuse liste de quoi faire finalement si on veut lisser notre courbe de glycémie. Une des notions vraiment importantes que l'auteur rapporte, puis ce qui est cool en fait, si vous avez envie de pousser le sujet plus loin et de lire le livre, c'est qu'elle en fait, elle s'est comme fait un logiciel pour aller rentrer toutes ses glycémies puis aller voir l'effet de comme quand elle mange ça, qu'est-ce que ça fait. Puis dans le livre, il y a une foule de graphiques. Puis je pense que sur sa page Instagram aussi, là, donc je le rappelle, c'est Glucose Goddess. Elle partage plein de graphiques. Fait que mettons, si j'ai mangé telle affaire, ça a donné ça. Si j'ai mangé telle affaire, mais que j'ai ajouté ça ou que je l'ai mangé dans cet ordre-là, ça a donné ça, ce qui est intéressant. Puis, elle, en fond, une chose qu'elle met vraiment en lumière, c'est l'ordre de consommation des aliments. Donc, ce que je vous disais tantôt, en fait, c'est que plus la glycémie monte, plus les aliments sont absorbés rapidement, plus le sucre, le glucose, finalement, est absorbé rapidement, plus la glycémie monte en flèche et plus elle redescend. Puis, c'est ça qu'on veut limiter. Dans le fond, la glycémie, inévitablement, elle va monter, puis c'est tout à fait correct, là. Mais on veut qu'elle monte plus tranquillement, puis qu'elle rebaisse plus tranquillement. Donc, ce qu'elle observait, en fait, c'est que l'ordre de consommation des aliments va avoir un grand impact sur les glycémies. Par exemple, ce qu'elle conseille, c'est de souvent commencer avec des fibres pour aller faire un genre de tapis là, qui va faire en sorte qu'après, même si tu manges des glucides, ils vont être absorbés plus rapidement parce que les fibres vont avoir tendance à ralentir l'absorption. Fait que souvent, elle suggère de débuter, mettons, le repas avec des salades ou les légumes, de manger les légumes en premier. Elle pousse un peu loin son histoire, selon moi, c'est-à-dire que des fois, elle dit qu'on devrait, mettons, au lieu de manger un sandwich, ben manger le truc décomposé, comme, puis commencer par les légumes et la protéine qui est à l'intérieur, puis terminer par les glucides. Bon, ça, je trouve ça intense. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller là. Encore là, si ça te tente de le faire, vas-y. Mais pour ma part, là, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai décidé de mettre à l'avant. J'ai aussi testé, je ne vous ai pas dit tantôt, mais j'ai testé pendant un petit bout le matin, tu sais, je disais, je voulais voir l'impact sur ma glycémie de mon déjeuner, mais pendant un bout, je me prenais un petit shot de... j'ai essayé deux choses, j'ai essayé des graines de chia dans un petit peu d'eau, puis du psyllium dans un petit peu d'eau pour voir si ça avait un effet, justement, que je mangeais avant mon déjeuner. Mais vu que mon déjeuner, il avait déjà comme pas un super impact sur ma glycémie dû à sa composition qui est intéressante, ça n'a pas vraiment fait d'effet, mis à part le fait de me constiper. C'est un problème que je n'ai jamais. Donc, j'ai cessé cette pratique de consommer des fibres en premier. Pour ma part, c'était pas du tout nécessaire et pas winner. Donc, c'est ça. Fait que l'ordre de consommation, ça n'en parle vraiment, vraiment, vraiment souvent. Fait que par ordre de consommation, on dit de commencer avec les fibres, ensuite les protéines et les gras et de terminer par les glucides. Ça m'amène vers une autre de ces recommandations qui est comme, si tu as envie d'une petite envie sucrée, ben au lieu de la prendre en collation, prends-la en dessert. Parce que comme tu viens de manger un repas, ben le sucre de ton dessert va être moins dommageable, en parenthèse, que le sucre isolé comme si tu le prends en collation. Elle suggère également de privilégier un déjeuner salé. Puis là, moi, je vais t'amener vers ma réflexion qui est comme salé ou équilibré en glucides. Puis là, d'ailleurs, tu sais, salé, là, si tu prends un déjeuner salé, mais que tu prends 8 tasses au beurre de peanut, là, c'est pas gagnant, là, dans le sens qu'il n'y a pas juste le sucre qu'il faut observer, mais il y a les glucides totaux. Mais c'est sûr que dans un déjeuner plus à tendance sucrée, ben, on a plus de sucre simple, puis les chances que ça ait un plus gros impact sur notre glycémie sont plus grandes que si on est dans un déjeuner salé. Mais par déjeuner salé, c'est sûr qu'il faut porter une attention globale aux glucides. Donc, par exemple, une toast, fromage cottage, œuf, par exemple, ou quelque chose du genre. Elle dit d'éviter les grandes quantités de sucre ou de glucides en collation. Je vous réfère un peu à mon histoire de pain aux bananes. Et attention, là, si vous faites du sport, là, c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut, que la glycémie monte un petit peu et que ce soit facile à absorber. Là, si vous en allez, mettons, si vous avez... Moi, je fais souvent ça, on fait là, mes entraînements en fin PM. Donc, à ce moment-là, une collation qui serait plus riche en glucides est tout appropriée. Elle dit d'habiller les glucides avec des protéines et de la matière grasse. Donc, par exemple, que vous voulez manger du pain, bien, assurez-vous d'avoir une protéine ou un gras à côté pour ralentir l'absorption. Faire de l'activité physique va avoir un effet très favorable sur la glycémie. Fait que, mettons que vous dites, il là là, j'ai mangé vraiment comme un gros bol de pâtes, je sais que ça doit avoir un impact sur ma glycémie. Bien, allez prendre une marche, dans le fond. Ça peut tout simplement aider à réguler la glycémie. Elle disait qu'elle faisait que 20 squats après ses repas. Puis, genre, elle était à son bureau, mettons au travail, elle venait de finir de manger, elle faisait comme 20 air squats, puis ça avait déjà un effet de baisser sa glycémie. Fait quand même intéressant. Et d'éviter de consommer de l'alcool à jeun. Moi, j'ai décidé d'ajouter à ça, bien, de favoriser les glucides complexes comprenant des fibres. Donc, au lieu de se tourner vers des produits raffinés, quand on prend des grains, genre du riz ou du pain, des pâtes, de la farine, donc s'assurer que les glucides sont complexes et non raffinés, donc avec la fibre. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire par rapport à ce livre-là. Si vous êtes intéressé, ben, je vous invite à vous le procurer. Là, quand même, plusieurs informations intéressantes. Cela dit, ayez un regard critique par rapport à l'information qui vous est partagée. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait la job plate que personne ne fait, c'est-à-dire de pousser l'information plus loin puis d'aller valider les études qui ont été mises en référence. Puis, c'est pas toutes des études qui sont solides. Notamment, souvent, il fait référence à un autre livre, tu sais, donc un auteur qui a écrit aussi au sujet des glucides, qui est lui comme full anti-glucides, mais comme, si tu cites un autre livre, mais est-ce que dans l'autre livre, l'auteur, justement, il y a une grande rigueur scientifique ou pas tant? Donc, le livre, je ne l'avais pas en main, mais tu sais, ça, j'étais un peu perplexe par rapport à ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast Zone Grise, les nuances de la nutrition. Bye bye! Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!